Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses dans ces deux textes. On ne va pas parler de tout, mais je vais quand même commencer par vous parler de ces pharisiens qui interrogent le Christ. Ils reviennent assez souvent dans les évangiles, et je crois que ça peut être intéressant de creuser un peu qui ils sont et ce qu'ils représentent. Alors, les pharisiens sont un groupe qui existe dans la religion juive à l'époque de Jésus. Ce groupe est différent des sadducéens, des esséniens et des publicains. Et les pharisiens sont, je pense, le dernier groupe à apparaître dans la vie religieuse juive, et ils développent une loi orale qui vient s'ajouter aux Écritures et qui prétend apporter une interprétation du livre sacré. Flavius Joseph, qui est un historien de romain, dit « Les pharisiens imposèrent au peuple de nombreuses lois issues de la tradition de leur père, mais non inscrites dans la loi de Moïse. » Et donc, ils vont au-delà de la loi écrite et ils précisent cette loi, ils l'enrichissent et les pharisiens sont liés au développement et à l'importance des synagogues, le lieu où l'on interprète la loi. Et c'est pour ça que Jésus les croise aussi souvent, puisqu'il va dans les synagogues, c'est vraiment le lieu où ils se tiennent pour parler. Alors, ils sont plutôt bien vus du peuple, parce que justement, ils apportent cet enseignement, peut-être à la différence des sadducéens, qui sont plus dans la règle, c'est la règle, la loi, c'est la loi, on a toujours fait comme ça, et on ne discute pas. Et donc, eux apportent ces éléments. Alors, ce qu'il y a, c'est que le problème des pharisiens, c'est qu'ils sont souvent dans la surenchère par rapport à la pratique commune. Et donc, ils ajoutent, on peut dire qu'ils enrichissent, mais par certains côtés, ils alourdissent, et puis ils ajoutent un certain nombre de choses qui ne sont peut-être pas forcément essentielles. Ils insistent beaucoup sur la question du respect pointilleux du rituel, et puis enfin, ils se séparent des autres groupes, c'est-à-dire ils considèrent vraiment que les autres ne sont pas à leur hauteur, et dans les évangiles, eh bien, les pharisiens sont devenus un peu le symbole de l'hypocrisie, du formalisme excessif dans le domaine religieux, et aussi, et peut-être surtout, ils sont le symbole du mépris pour les autres qui sont considérés comme inférieurs moralement et spirituellement. C'est ce que l'on a d'exprimer dans la fameuse parabole de Saint-Luc, celle du pharisien et du publicain, où le publicain se reconnaît pécheur, et où le pharisien, lui, fait valoir devant Dieu sa belle observance des règles, et il se juge quand même supérieur à ce publicain. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les pharisiens, sur le plan économique, font partie de la classe moyenne qui se développe dans les villes, que économiquement, on va dire, ils ont le vent en poupe depuis un moment. C'est une nouvelle tranche de la population qui est vraiment en pleine expansion. Et qu'avec un bon niveau de vie, ce sont des gens qui ont donc un peu de temps à consacrer aux Écritures, à la différence, on dirait, du bas peuple qui, lui, doit travailler quand même presque tous les jours et exclusivement. Et donc, ils consacrent du temps libre à la Torah, et voilà pourquoi ils sont si fiers, chaque fois dans les évangiles, de venir interroger le Christ, parce que c'est leur exercice de prédilection de travailler sur les Écritures. Et donc le Christ est confronté à eux, non pas sur la façon dont ils traduisent les Écritures, mais il est confronté à eux sur ce qu'ils sont, sur la dimension de l'hypocrisie, sur cette dimension de l'orgueil qui, pour lui, ne correspond pas à l'enseignement de la loi. Et donc, on a ce docteur de la loi qui pose sa question, et donc, il faut l'imaginer, avec une certaine autorité, et on nous le dit dans l'idée de mettre en défaut le Christ. Et Jésus répond par ce qui est écrit, par ce qui est dans l'Écriture. Le Christ nous l'a dit, il n'est pas venu pour ajouter ou retrancher quelque chose à la loi. Il se place au cœur de la loi, mais surtout ce qu'il place au cœur de la loi, c'est la dimension d'amour. Elle y est, mais c'est le Christ qui la met en valeur. Et il met en valeur cette dimension de la charité envers le prochain. Et surtout, il met en relation la dimension de la charité avec la dimension de la relation à Dieu. Et il dit que ce n'est pas quelque chose de séparé. Je suis avec Dieu comme je suis avec les gens qui m'entourent. Je ne peux pas aimer Dieu que je vois si je n'aime pas les autres que je ne vois pas. Et le respect strict du rituel, eh bien, ne suffit pas pour gagner le royaume. La vie terrestre ne peut pas être séparée de la vie spirituelle dans la route qui conduit à la Jérusalem céleste. Et saint Paul, eh bien lui, il revient sur ce même thème et puis il nous décrit plus en détail ce que doit être la vie du chrétien. Cette vie, elle doit être unie à Dieu. Et ce qui nous est demandé, c'est de rester le plus possible dans cette unité. Il nous dit, soyez un seul cœur. Un seul cœur, ça veut dire... Soyez dans cette unité sur le plan terrestre et matériel. Et puis il nous dit, soyez un seul esprit, restez dans cette unité sur la dimension spirituelle. Ce texte est absolument magnifique. Vous ne formez qu'un seul cœur. Vous n'avez qu'un seul esprit. De même, que votre vocation vous appelle à partager une seule espérance. Cette dimension qui est révélée par le Christ, sur laquelle insiste saint Paul, c'est cette dimension de l'universalité. Dieu n'est pas là pour un tel ou un tel. Dieu est notre Père à tous. C'est la fin. Il termine en disant... Un seul Dieu qui est Père de tous, il est au-dessus de tous, mais surtout, il agit en tous, il habite en nous tous. Et là, saint Paul ne dit pas, il habite dans ceux qui sont de telle secte ou de tel groupe, non, en tous. C'est ça la dimension de l'espérance. La parole de Dieu, la force de son esprit, agit partout dans le monde. Et l'espérance que nous partageons, c'est que nous sommes tous et toutes appelés à cet accomplissement. Votre vocation vous appelle à partager une seule espérance. Toute l'humanité est appelée à partager cette espérance et d'être un jour tous et toutes réunis dans la paix de Dieu. Et peut-être que ça commencera un jour par être tous et toutes réunis, chrétiens, autour d'une même table de communion. Et là, nous sommes au cœur de l'enseignement du Christ avec cette messe. Il faut aller vers cette unité et il faut aller vers cette unité en nous-mêmes et avec les autres. La religion, elle n'est pas faite pour dire qui est meilleur que l'autre. Et elle n'est pas faite non plus pour dire ma façon de célébrer, elle est supérieure à tout ce qui se pratique ailleurs. Et puis mes prières, elles sont plus belles, et mes chants, ils sont plus brillants, et mes hosties, elles sont plus imprégnées du Christ. Non, la religion, elle ne sert pas à ça. Ça ne peut pas être cela. Ça relève plus de ce côté critiqué par le Christ, du pharisianisme. Et cette dimension... pharisienne, eh bien, elle est encore à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. Et ce que combattait le Christ, eh bien, il y a encore du travail à faire. Le sens de cette messe à travers cette parabole, cette parole dans l'épître et dans l'évangile du 17e dimanche après la Pentecôte, c'est que notre religion doit se vivre dans l'humilité, dans la joie, dans la douceur, avec de l'attention pour ceux qui nous entourent. Alors, ceux qui nous entourent nos prochains. Ce n'est pas l'humanité tout entière. Ça, ce serait bien trop orgueilleux de vouloir porter ça d'un seul coup. Non, nos proches, notre prochain, ce sont nos voisins, nos parents, nos amis. C'est quoi ? C'est d'abord un cercle restreint, un cercle proche, une cinquantaine de personnes. Pour les grandes familles, une centaine. Et c'est avec eux d'abord que nous devons, dans notre relation quotidienne, que nous devons manifester ce que nous voulons vivre avec Dieu notre Père. Il faut se supporter mutuellement dans la charité. Eh bien oui, nous ne sommes pas parfaits, ni les autres non plus. Eh bien alors, il faut mettre beaucoup de bienveillance, beaucoup de tempérance, beaucoup de tendresse, de gentillesse dans cette dimension relationnelle. Et si nous avons cette qualité de relation avec les autres, eh bien, la relation que nous avons avec le Père sera construite de façon identique. Car il est dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. Voilà vers quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés vers cette dimension de l'unité, cette dimension du partage et cette dimension de se rassembler dans cet esprit qui est présent et agissant parmi nous, agissant dans le monde et agissant en nous. Et cet esprit que nous avons souvent beaucoup de difficultés à retrouver. Mais ce qui est important de savoir et de se dire et redire, c'est qu'il est présent. C'est que si nous faisons cet effort de revenir en nous-mêmes, eh bien, sa présence sera là. Sa présence sera forte, belle et agissante. Amen.